Le 30 septembre, Florian s'était posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire servir Jésus? Et il nous avait dit que c'était choisir l'amour à la place de la haine. Et aimer, c'est un sujet qui me titille personnellement ces derniers temps, plus particulièrement parce que je trouve que j'ai beaucoup reçu de Dieu et il me semble que je devrais être capable de donner et d'aimer mieux qu'avant. Mais je ne suis pas contente de moi. Et puis, il me semble qu'il me suffirait de me pousser un peu pour que mes craintes et mes a priori, pour surmonter mes craintes et mes a priori. Et c'est pour cela que j'ai choisi le texte que vous allez découvrir tout à l'heure pour notre méditation d'aujourd'hui. Il y a question de loi, de culpabilité, de porte de sortie aussi.
Un jour, les pharisiens demandèrent à Jésus « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Nous prions. Seigneur, je ne sais pas si je t'aime de tout mon être. J'aimerais bien. Pardonne-moi parce que souvent je me laisse absorber par toutes sortes d'autres préoccupations et que j'oublie de penser à toi. Seigneur, j'aimerais bien aimer mon prochain comme moi-même. Mais souvent, je n'y arrive pas. Je suis sans arrêt en train de juger, de cataloguer, de classifier, d'élever des barrières entre moi et les autres. J'ai beaucoup de peine à accepter l'autre tel qu'il est. J'ai beaucoup de peine à dépasser mes préjugés et mes lois intérieures. Seigneur, pardonne-moi. Viens m'aider, s'il te plaît. Amen.
Je vais vous lire un texte de saint Augustin. Dieu, juge et sauveur, comme la cire fond au feu, qu'ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu. Psaume 68, verset 3. On peut dire qu'ils périssent, mais aussi qu'ils ne périssent pas. S'ils se mettent à vivre en juste, les pécheurs périront bien, mais pas les hommes. Hommes et pécheurs, il faut distinguer entre eux. Il y a l'homme et il y a le pécheur. De ce fait, nous comprenons que Dieu a fait le premier et l'homme a fait le second. Dieu a fait l'homme et l'homme a fait le péché. Pourquoi te mets-tu à trembler quand Dieu te dit que périssent les pécheurs devant ma face? Dieu veut te faire entendre que périsse en toi ce que tu as fait. Moi, je sauve ce que j'ai fait. Si Dieu menace de venir en juge, c'est pour ne trouver personne à punir quand il viendra. C'est pourquoi le message des prophètes vise à nous réformer. Si Dieu voulait condamner, il se tairait.
Jésus gagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner.
Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère. Ils la placèrent au milieu du groupe. Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Tu ôteras le mal d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de cette ville vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, du fait qu'étant dans la ville, n'a pas crié au secours. Et l'homme, du fait qu'il a possédé la femme de son prochain. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Les scribes et les pharisiens dirent à Jésus : Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? Il parlait ainsi, dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser.
Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa.
Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa.
« Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » ?»«
Personne, Seigneur. » »«
Moi non plus. » Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus.
Je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais j'ai été soulagée quand les panneaux sont descendus. C'est bizarre d'avoir choisi ce texte pour parler d'aimer l'autre. Mais je l'ai choisi parce que les personnages de ce récit vivent tous en eux-mêmes des obstacles à aimer. Et en regardant leur parcours, on va essayer de trouver aussi quelque chose qui nous rejoint, nous. Tout d'abord, le climat général de cette histoire. Dans Jean, la tension entre Jésus et les pharisiens est présente très rapidement et presque constamment. Ça commence au chapitre 2 avec l'histoire de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Ça continue au chapitre 5 avec la guérison du paralytique un jour de sabbat. Et dans ce chapitre aussi, Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Et ça continue comme ça jusqu'au chapitre 12, où ensuite Jésus se retrouve avec ses disciples et à la croix. Dans Jean 7, il y a beaucoup de discussions et de controverses avec les... Ouais, je ne vous ai pas dit le texte de la femme adultère, c'est dans Jean 8, hein, les versets 1 à 11. Donc dans le chapitre précédent, il y a beaucoup de controverses entre Jésus et les pharisiens. Ceux-ci ont même envoyé des gardes pour l'arrêter, mais ceux-ci n'ont pas réussi à l'arrêter. Et ils sont vraiment exaspérés, ils commencent à perdre pied, leur situation est en train de leur échapper. Donc c'est dans cette toile de fond de tension, de risque pour Jésus que cette histoire se trouve. Alors Jésus, que vit-il ? Jésus, il est à la fois Dieu et homme. Être Dieu, je ne sais pas comment Jésus a vécu à l'intérieur de lui-même le fait d'être Dieu et homme en même temps. Nous sommes des humains, nous savons ce que ça veut dire que d'avoir des réactions humaines. Alors je vous propose d'étudier un petit peu ce qui a pu se passer en Jésus. Lita Basset suggère que Jésus ne savait pas, il savait qu'il mourrait de mort violente, mais il ne savait pas exactement de laquelle, et que longtemps il a pensé qu'il mourrait lapidé. Jésus cite un verset où il dit, mais Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t'envoie. Et à trois reprises dans l'évangile de Jean, il parle de gens qui ont essayé de prendre des pierres, qui ont voulu les jeter sur Jésus. Donc peut-être bien que Jésus, en voyant cette femme-là qui risque la lapidation, c'est aussi sa propre mort qu'il voit. Et ça ne doit pas être facile pour lui. Et puis peut-être que nous, à sa place, et que lui l'a dû le faire aussi, on aurait bien voulu renvoyer à ces pharisiens une phrase bien sentie, bien assassine, pour leur clouer le caquet et leur rendre la monnaie de leur pièce. Alors je pense qu'il y avait aussi ça, cette lutte en lui-même, pour ça. Que mes hypothèses soient justes ou pas, le piège est bien refermé, est bien posé. C'est comme un piège à loup, vous voyez, avec les belles dents, là. D'un côté, si Jésus dit qu'il est d'accord avec la lapidation, il sauve sa peau, mais il perd celle de la femme. Et puis aussi, il se discrédite complètement, parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas le message qu'il a donné. Donc, dire « oui, lapidez-la », c'est aussi renoncer à ce qu'il est et à ce qu'il est venu faire. Et c'est se donner aux mains des pharisiens, c'est perdre sa liberté de parole. Et puis, dire « il ne faut pas la lapider », c'est sauver la femme, mais c'est précipiter sa mort à lui. Alors, comment ne pas céder à tout ce qui se passe en nous quand on est dans une situation pareille? Comment aimer ceux qui nous veulent du mal? Maintenant, si on regarde les pharisiens, pour nous, chrétiens du XXe siècle, après 2000 ans d'histoire du christianisme, les pharisiens, c'est les méchants. On a lu tous les évangiles, on a vu combien Jésus les a repris sévèrement, et puis ce sont eux qui ont tué Jésus. Donc pour nous, ce sont les méchants. Mais ce matin, je vous propose d'avoir un peu plus d'indulgence pour eux et de regarder avec les yeux des Juifs de cette époque-là. Roger, dimanche passé, il nous rappelait que le peuple d'Israël ne faisait pas ce qui plaisait à l'Éternel et que Dieu les livrait à leurs ennemis. Et c'est quelque chose que les pharisiens ont entendu depuis leur enfance, une idée avec laquelle ils ont été formés. Et c'est pour cela qu'ils défendent aussi ardemment la loi, la vraie foi en le Dieu de leur Père. Et puis, ce statut de pharisien, c'est aussi toute leur identité, c'est la mission qu'ils se sont donnée, c'est ce qui les fait vivre. Et c'est tout cela que Jésus vient mettre en péril. Il est différent d'eux. Il fait des choses interdites par la loi. Il parle avec une autorité qu'ils ne lui reconnaissent pas. Malgré leur avis, il continue de parler. Malgré les avertissements, malgré les paroles pour le reprendre, il continue de parler et d'avoir de l'influence. Et pire, de plus en plus de personnes viennent à lui. Donc, ils ont peur que le peuple ne se perde loin de Dieu. Ils ont peur de perdre la bénédiction de Dieu. Ils ont peur de n'être plus personne parce que Jésus prend de plus en plus de place. Alors ils se défendent. Nous, on ferait la même chose à leur place. Et leur arme, c'est la loi. La loi de Dieu, les règles d'une société, les valeurs, nos codes internes, ce sont tout un système de référence sur lequel nous avons bâti nos existences. Nos vies et nos existences. C'est comme ça qu'on a construit notre personnalité. C'est bon quand ça nous est utile pour savoir qui on est et protéger notre personne. Ça nous aide aussi à vivre avec les autres, à avoir du discernement, à faire de bons choix. Mais c'est mauvais quand ce système de référence est un outil pour accuser et condamner autrui, ou même se condamner soi-même. C'est mauvais aussi pour se donner bonne conscience pour rejeter l'autre. C'est sa faute. Si ça ne va pas, c'est sa faute. Il a désobéi à la loi. Donc nous, si nous étions les pharisiens mis en danger par Jésus, que ferions-nous à leur place? Comment aimer celui qui nous perturbe, qui nous met mal à l'aise, qui met le doute dans nos vies, celui qui nous fait sortir tous nos piquants pour le repousser? La femme maintenant, la femme, elle est, vous avez vu, hein, elle était prostrée, elle était tétanisée, elle était ramassée sur elle-même dans l'attente des premières pierres qu'on allait jeter sur elle. Mais est-elle seulement coupable? Vous avez entendu la lecture de la loi. Il fallait déjà que l'homme soit là. Il n'est pas là. Il y a une injustice ici. Et puis, s'ils veulent la lapider, c'est que c'est une toute jeune fille. Elle serait lapidée parce qu'elle n'a pas crié. Mais on sait que suivant les situations, on ne peut même pas crier. Alors on ne sait pas exactement ce que cette femme, cette jeune fille a vécu. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est condamnée avant d'avoir été entendue. C'était du flagrant délit. Sans état d'âme, il la condamne. Et elle est là, au milieu, autour de tous ces gens qui sont la loi, qui croient qu'ils ont raison. C'est une femme sans nom, sans parole. Elle n'est rien, nada, personne. C'est comme s'il lui avait déjà enlevé la vie. Comment pourrait-elle aimer cette femme? Maintenant, voyons comment chacun s'en sort. Jésus, dans le texte que nous avons lu de saint Augustin, Augustin, théologien du IVe siècle, fait la distinction entre homme et pécheur. Par pécheur, je vois celui qui est capable de pécher, pas forcément celui qui a commis un péché. Il dit qu'il faut distinguer entre les deux. Là encore, pour nous humains, c'est difficile, hein, tout est mélangé. L'homme et la femme que Dieu a créé en nous est le pécheur. Mais je pense que Jésus, qui savait d'où il venait et où il allait, et qui appelait Dieu son Père, pour lui, ça devait être plus clair. C'est peut-être là qu'est sa divinité. Il devait connaître mieux que nous cet homme en lui que Dieu avait créé. Et il connaissait mieux quel était le lien qui l'unissait à Dieu. Je pense aussi que c'est à cause de cette connaissance qu'il pouvait être pleinement qui il était, parler en liberté, dire non, dire des choses qui ne font pas plaisir, affirmer que Dieu était son Père, vivre différemment que les scribes et les pharisiens, et même ne pas correspondre à l'image de ceux qui l'aimaient, que ceux qui l'aimaient, ses disciples, se faisaient de lui. Alors Jésus, entre les deux mâchoires de ce piège, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait et il trace des traits sur le sol. Il se baisse et il trace des traits sur le sol. Il refuse la pression. Il prend le temps. Il baisse le regard. Ainsi, il se soustrait au regard de ses accusateurs, les pharisiens. Et il trace des traits par terre comme s'il avait besoin d'utiliser ses mains pour faire de la place dans son esprit, pour calmer la tension qui est en lui. Baissé au risque de paraître indifférent ou méprisant, il fait ce qu'il décide de faire, il fait ce qu'il veut. Il s'extrait de la volonté des pharisiens. À l'intérieur de lui-même, il sort du cercle accusateur qu'on peut encore voir des pharisiens. Il se concentre en lui-même, là où il retrouve en lui l'homme que Dieu a créé, là où il se retrouve lui-même, dans la sécurité du lien qui l'unit à son Père. Ce ne sont plus ses sentiments qui lui dictent sa réponse, c'est l'homme qu'il est, l'homme que Dieu a fait.
On a donc dépeint la situation dans laquelle on se trouve, une situation critique, violente presque, qui semble vite pouvoir se dégrader et qui force à la réaction. Il en va de la vie de cette femme. Mais quelle réaction ? Que faire ? On l'a vu, Jésus, lui, il dessine au sol. J'imagine cette femme, ne sachant pas trop ce qu'il va advenir d'elle, connaissant pas forcément qui est Jésus, mais le voyant là, dessinant au sol. Mais bon sang, il voit ce qui se passe ? Il est indifférent ? Pourquoi il réagit pas ? C'est vrai, il remue pas ciel et terre. Et Jésus, nous, on le connaît un petit peu mieux. On l'a vu à différents moments, des fois très actif, réactif, parfois même en colère. À d'autres moments, peut-être plus un homme de parole, d'enseignement. Et là, il est ni l'un ni l'autre, il montre une autre facette. Il paraît, comme l'a dit Denise, détaché, peu réactif et peu bavard. Mais il est là, il est bien au milieu du cercle, on l'a vu, il est auprès de cette femme. Et il agit en son temps. Au moment opportun, il a une parole. Effectivement, une et une seule parole. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Après quoi il retourne à ses croquis. Penchons-nous un petit peu sur cette parole. Elle est dite sans animosité, elle n'est pas accusatrice. Elle ne vise personne, c'est vrai, il n'y a pas de « tu », de « vous », « faites ceci », »,« faites cela ». Et ce n'est pas une question. Du coup, ça ne demande pas de réponse, de compte. Sa phrase ne défie pas ses adversaires. Pour autant, elle n'est pas anodine et resitue le débat. Elle recentre les préoccupations. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas la lapider, comme l'a dit Denise. Et c'est pas non plus une invitation à la lapider, justement. Jésus, lui, il n'a jamais péché, il aurait très bien pu jeter cette première pierre. Il semblerait que ce soit plutôt une incitation à la réflexion, à l'introspection. Et elle ramène chacun à soi. Et moi, comment je me situe par rapport à ça ? Qu'est-ce que je peux répondre à cette phrase ? Ainsi, les pharisiens, qui se sentaient forts parce qu'en groupe, puis ils avaient la loi pour eux, ils n'avaient pas besoin de venir questionner Jésus. Et bien, ils se retrouvent mis en difficulté. Jésus les met face à leur conscience individuelle. C'est un terrain qui leur est beaucoup moins familier, où tout le monde est sur le même plan. Il n'y a plus de maître de la loi. Alors qu'ils croyaient maîtriser et mettre en difficulté Jésus, non seulement Jésus ne leur répond pas, ce qui l'aurait poussé à se trahir, effectivement, mais en plus il les ramène au cœur, à ce qui est important, leur condition de pécheur. Il ne s'agit plus de condamner ou non. Effectivement, il y a la loi. Elle est faite pour tous, mais elle est avant tout à appliquer à soi. Malheureusement, comme on l'a vu, elle est souvent utilisée contre les autres pour caractériser ce qui ne va pas en face. Jésus, lui, il n'est pas là-dedans, il n'est pas dans la condamnation. Il va même jusqu'à répondre à une provocation par une réaction d'amour. Sincèrement, je pense qu'il voulait amener les pharisiens à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Après ça, il les laisse libres face à leur propre conscience. Il lâche prise. Il ne prête pas attention à leurs réactions, ne les juge pas en défiant du regard, en les défiant du regard ou en les suivant. Et les pharisiens se retrouvent liés. Ils ne peuvent plus rien faire pour garder la face. Ils ne peuvent que battre en retraite. Eux qui voulaient humilier publiquement Jésus, ils se retrouvent empêchés d'agir parce qu'aucun d'eux ne pouvait jeter cette pierre sans publiquement se décrédibiliser. Ainsi, cette phrase, cette unique phrase, dénotant avec la violence ambiante, elle est désarmante. Elle réussit à désamorcer ce conflit tout en douceur. Et la réaction des pharisiens atteste de sa pertinence. Au verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un. Honnêtes avec eux-mêmes, ils acceptent de baisser la garde. Et l'incident public prend fin. Comme souvent dans la Bible, on ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux, ce qui s'est passé dans leur cœur, et à quel point ils ont cheminé.
Et la femme, elle est toujours là. Toujours là dans la crainte que les pierres ne tombent sur elle. Les pharisiens sont partis. Mais la pression était si forte. Et voilà qu'elle entend une voix à l'extérieur d'elle-même, la voix de Jésus. Une voix qui l'invite à sortir de l'état où elle est, de sortir d'elle-même. Une voix qui lui dit, mais viens. Où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle regarde autour d'elle et elle voit. Elle voit qu'ils ne sont plus là, ceux qui l'accusaient et la condamnaient. Mais Jésus a été obligé de lui poser cette question pour qu'elle le voie. Elle le voit. Elle dit, personne, Seigneur. Ça veut dire qu'elle a pris acte que la parole que ce qu'elle voit est vrai. Le cercle, il était dans sa tête et dans son cœur. Il n'était plus là. Et dire « Personne, Seigneur », c'est pouvoir sortir de ce cercle. Je ne te condamne pas non plus. Jésus lève la condamnation qui pesait sur elle. Jésus n'est pas celui qui juge. Il est celui qui fait grâce. Et sa parole est au-dessus de celle des hommes. Il est aussi au-dessus des petites voix intérieures qui me condamnent, qui me jugent et me condamnent à l'intérieur de moi-même. Elle est au-dessus de ces voix-là parce que c'est la voix de celui qui n'a jamais péché, de celui qui ne se trompe pas, qui dit la vérité, qui parle vrai. Va et ne pêche plus. Si cette jeune fille est coupable, vraiment d'adultère, ça veut dire de manière évidente, va et ne commets plus d'adultère. Jésus n'efface pas la responsabilité de celui qui commet un péché, c'est juste. Mais on n'est pas sûr finalement qu'elle ne soit pas coupable. Alors si elle n'est pas coupable, qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot « péché » en hébreu, je crois que c'est en hébreu, les théologiens pourront me corriger, ça veut dire « manquer la cible », se tromper. Alors je me suis demandé, mais quelle était la cible que cette femme avait manquée auparavant pour que Jésus lui dise ça? Et je me suis dit que c'était peut-être avant que Jésus parle, il y avait autour d'elle la voix des pharisiens. Et je me suis demandé si elle ne s'était pas trompée en écoutant la voix des pharisiens. Cette voix qui la condamnait, cette voix qui voulait l'empêcher de vivre. Alors je me suis dit, mais va et ne pêche plus. Jésus veut lui dire, mais va et écoute ma voix. Celle qui te dit que je te veux en vie, celle qui t'a appelée femme, celle qui te dit je ne te condamne pas, celle qui te dit va, celle qui te dit moi, j'ai envie que tu vives, toi qui as été condamnée. C'est les hommes qui l'ont condamnée, mais Jésus là la déclare juste. La femme s'est levée et Jésus l'a laissée partir. Il ne l'a pas couru après, il ne l'a pas entourée de ses bras. Il l'a laissée, elle est partie libre. Et là aussi, on ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On ne sait pas comment cette phrase a retenti pour elle. Mais on peut la faire retentir pour nous. Alors si on en revient à notre sujet, comment cette histoire va nous aider à mieux aimer l'autre. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de truc, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de formule magique qui tout d'un coup ferait que les barrières qui sont en nous pour aimer l'autre, ça s'efface. Il y a une chose, il me semble, qu'on peut faire, c'est refuser la pression que les autres veulent exercer sur nous. Dans notre société, ne pas regarder les gens en face, c'est être impoli, et c'est ne pas être franc, c'est avoir quelque chose à cacher. Mais pourquoi est-ce que quand quelqu'un nous presse, on ne ferait pas la même chose? Alors s'il n'y a pas de truc ou de formule magique, il y a quand même quelque chose que nous dit cette histoire, c'est que Jésus et Dieu nous veulent en vie. C'est qu'on peut distinguer en nous entre cet homme et ce pécheur, entre sa femme que nous sommes et la pécheresse, si on veut. C'est qu'il y a en nous une personne que Dieu a envie qu'elle vive. Et cette personne, on peut la rencontrer en écoutant les paroles de vie que Dieu prononce sur nous, en étant dans la relation avec lui. Parce que petit à petit, on la découvre, et quand on entend les paroles que Jésus a pour nous mettre en vie, pour nous maintenir en vie, on se sent aussi en sécurité. Et quand on est en sécurité, on ne se défend plus, on n'a plus besoin de se défendre. Alors, Jésus, il réussit très bien, nous on réussit moins bien, je ne sais pas si on y réussira parfaitement une fois, mais j'aimerais nous inviter chacun, quand on est devant quelqu'un qui nous pose un problème pour l'aimer, à d'abord essayer de trouver en nous la personne que nous sommes, que Dieu aime, que Dieu a envie de voir vivre, pour laisser tomber nos défenses et voir ce que nous pouvons être avec cette personne de cette façon-là.
Qu'est-ce que nous ferions si nous n'avions pas le Seigneur Jésus dans notre vie? À qui est-ce qu'on pourrait tendre la main? À qui est-ce qu'on pourrait regarder? Qui est-ce qu'on pourrait écouter? Qu'est-ce qu'on ferait nous-mêmes? Seigneur Jésus, je te prie que tu graves ces paroles que nous venons d'entendre dans le cœur de chacun. Je te prie que tu nous accompagnes dans toutes nos difficultés. Je te prie que par la puissance incompréhensible de ton esprit, tu nous portes jour après jour. Permets-nous d'être des témoins vivants de la manière que tu nous enseignes par ta parole. Permets-nous de nous tourner vers toi quand nous avons un coup de sang, quand nous avons un coup de haine. Seigneur Jésus, Tu es le seul chemin, nous le savons. Et nous te demandons la grâce de nous poser la main sur l'épaule quand nous nous lançons dans des situations qui nous blessent, qui nous mettent la hargne au cœur. Seigneur Jésus, sois toujours avec nous, sois le centre de nos vies.
Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Priez à toujours par une chaîne d'amour, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Priez à toujours par une chaîne d'amour.